Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Ouamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Bonjour à tous les auditeurs, vous nous écoutez en direct de la COP22. Nous vous proposons en effet de faire le point sur 15 jours de négociations sur l'avenir de la planète face au changement climatique. 196 délégations se sont retrouvées ici à Marrakech du 7 au 18 novembre pour discuter de la mise en œuvre de l'accord de Paris obtenu l'année dernière lors de la COP21 et ratifié aujourd'hui par plus de 100 pays. Pour analyser ces questions, Gildas Nabeza de Radio Ndeke Luka est avec nous, il est de la Centrafrique. Kadia Touba de Studio Hirondelle Guinée, Alassane Kozi de Studio Kalangou au Niger et Eric Ouedraogo de la RTB au Burkina. Je suis Mouhamadou Touré de Studio Tamani au Mali pour vous présenter ce débat. Alors nous allons commencer par les acquis et les avancées de ces 15 jours de négociation avec le président du groupe Afrique, M. Seyni Nafo.
L'Afrique avait trois objectifs en arrivant à Marrakech. Le premier, poser les fondements techniques de l'accord de Paris. C'est-à-dire avoir une feuille de route sur tout le travail technique qu'il y a à faire dans les deux prochaines années. Ça, c'est réglé. Le deuxième objectif, c'était accélérer l'action et les initiatives. On a eu de très bons résultats. Comme par exemple l'Union européenne qui a accepté d'au moins doubler sa contribution sur l'initiative africaine sur les énergies renouvelables, ou la France qui a fait une contribution de 6 millions d'euros à l'unité de gestion du projet, comme le lancement d'autres initiatives sur l'agriculture, sur les océans, sur le renforcement de capacités, sur la mise en œuvre d'autres initiatives. Donc ça, c'est bien. Troisième point, c'est celui-là qui est le plus important, c'est celui-là qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est d'assurer une augmentation significative du financement pour l'adaptation, et notamment le fonds dédié pour cette thématique-là, donc le fonds d'adaptation. C'est les deux points qui sont en négociation. Et c'est-à-dire qu'on va savoir d'ici la fin de la journée si Marrakech a été un succès total ou un succès relatif. L'adaptation, quand même, c'est la priorité des priorités. Toutes ces initiatives qui ont été annoncées ne pourront pas être mises en œuvre de manière satisfaisante si on n'assure pas un niveau de financement qui soit en conséquence, qui soit conséquent. Donc la question de l'adéquation des finances se pose. Donc aujourd'hui, c'est la grande négociation qui se passe. Les textes sont là, et les ministres sont là. Il faut que l'Afrique soit claire. Il faut que l'Afrique affiche à la tête du monde qu'elle est unie, et que cette question-là n'est pas une question qu'on peut délier. Il faut que le résultat soit à la hauteur des aspirations légitimes des Africains. Donc, le Maroc prend un rôle de leader. Ils ont un rôle de leader sur un certain nombre de thématiques, notamment sur les énergies renouvelables et le solaire thermique. Donc, c'est vrai qu'avec l'organisation de cette COP, il y a une consolidation de ce leadership. C'est une bonne chose parce que il faut plus de leaders. Il faut plus de leaders. Plus on est autour d'une table, donc moi je suis très heureux que Sa Majesté ait invité les chefs d'État africains, parce que ça permet de maintenir la thématique au niveau le plus élevé. Donc il faut remercier Sa Majesté pour avoir fait ça.
Juste après cette intervention de M. Seyni Nafo, qui est le président du groupe Afrique, M. Eric Ouedraogo, vous avez suivi ces négociations pendant 15 jours ici à Marrakech. Selon vous, quels sont les acquis et les avancées de ces négociations?
Oui, les acquis, tout le monde en venant ici à Marrakech disait que Marrakech, c'est la COP de l'action. Alors la COP de l'action, c'est la COP de mise en œuvre de tout ce qui avait été décidé à Paris lors de la COP21. Alors, comme acquis, on peut parler en tout cas de la simplification d'accès au financement, voilà, pour le fonds vert. Les pays africains surtout trouvaient que l'accès au fonds vert posait problème. Alors ici à Marrakech, ils ont eu gain de cause. L'accès au financement du fonds vert est devenu une simplicité pour eux.
Alors, c'était compliqué comment ?
C'était compliqué.
Qu'est-ce
parce
qui est
que
compliqué, au fait ?
Et pour avoir le fonds vert, pour monter le dossier, il y avait en tout cas des choses que l'on demandait et qui ne permettraient pas aux pays africains d'accéder à ce fonds. Et ça veut dire que le dossier était complexe.
Donc les procédures étaient compliquées.
Les procédures étaient compliquées, justement.
Et en plus de cela, M. Eric Ouédraogo, je pense que aussi il y avait le fait que les entités nationales ne sont pas encore accréditées.
Exactement, les entités nationales ne sont pas encore accréditées et cela aussi pose un problème. Voilà. Maintenant, à Marrakech, ici, on pense que voilà, ça ne devrait plus être le cas. Voilà, ça peut être considéré aussi comme quelque chose de plus qu'on a pu, en tout cas, entrer en possession pour pouvoir vraiment aller mieux dans cette lutte contre les effets des changements climatiques.
Alors, par rapport au processus d'accréditation des entités nationales, je crois qu'il est en cours parce que, notamment au Mali, il y a l'ANICT, l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, qui doit être accréditée. Le processus est en cours. Nous allons passer la parole à M. Gildas Nabeza. Vous êtes envoyé spécial de Radio Ndekeluka de la République centrafricaine ici à la COP22. Comme M. Eric Ouédraogo, vous avez aussi suivi les négociations. Alors, selon vous, quels sont les acquis et les avancées?
Merci, Mouamadou Touré. Merci à tous les auditeurs. Comme tous les pays africains, la République centrafricaine, dans les négociations à Marrakech, a fait un bloc avec le groupe Afrique. Elle est aussi membre du groupe G77 qui réunit les pays les plus pauvres. Les priorités que le pays, la République centrafricaine, a décrochées à travers ces négociations, c'est aussi dans le cadre de sa contribution déterminée et nationale. Donc la République africaine a présenté une contribution déterminée et nationale qui tourne autour de l'atténuation des gaz à effet de serre. C'est de demander aux pays pollueurs de respecter leurs engagements afin de faciliter le transfert de la promotion des énergies renouvelables. Ensuite, l'adaptation aux effets néfastes des changements climatiques qui prend en compte l'ajustement du cadre politique, l'amélioration de la connaissance de la résilience aux changements climatiques, gestion durable des systèmes agro-silvopastoraux. Ce qui est à noter et qui se présente comme une crainte pour moi, Mouamadou, c'est que tout se passe bien et que si cet accord si cette négociation se trouve un accord de principe, ça sera difficile pour la République centrafricaine pour de simples raisons qu'il se pose un problème de compétence qui est là. Donc il fallait que le pays cherche à former des gens qui peuvent avoir des compétences pour chercher à drainer ce fonds du climat vert.
Ok. Alors, vous dites que tout se passe bien, mais je ne pense pas être d'accord avec vous par rapport à ce point, parce que jusqu'à présent, il y a des blocages. Il y avait 3 objectifs par rapport à ces négociations. Il y a des acquis par rapport aux 2 premiers objectifs, mais le 3e objectif qui concerne les engagements financiers, jusqu'à présent, il y a des blocages par rapport à ces engagements, parce que les pays avancés ont proposé des choses. On va en revenir par rapport à la deuxième partie pour ne pas marcher sur les pieds. Alors, on va donner la parole à Kadiatou Ba. Vous représentez un média guinéen qui est Studio Hirondelle Guinée. Vous avez suivi les négociations pendant 15 jours. Selon vous, quels ont été les acquis et les avancées, notamment en particulier pour la Guinée?
Bonjour aux auditeurs et merci Mouamadou Touré de me passer la parole. C'est vrai, on a suivi la COP22 pendant 15 jours et dès le début, ce que je peux dire, qu'on a vu un continent africain engagé, mobilisé et surtout organisé pour obtenir des actions concrètes pour la mise en œuvre de ces projets d'adaptation et d'atténuation. Et aujourd'hui, on n'a pas des acquis vraiment nombreux, mais quand même, on peut dire qu'on a quelque chose de concret. Car la COP22 de Marrakech a comme acquis l'intention des pays industrialisés de simplifier l'accès aux fonds d'adaptation et aussi un doublement de la contribution actuelle qui passe maintenant de 10 à 20 milliards de dollars par an.
Ça, c'est un acquis, mais toujours il y a un problème à ce niveau, c'est que il y a les pays développés qui ont justement proposé de multiplier cela. Il y a d'autres pays qui ont proposé d'autres engagements par rapport toujours aux questions financières, mais jusqu'à présent, il y a les pays africains qui demandent que ce soit plutôt des décisions. Nous allons toujours en revenir au niveau de la deuxième partie. Alors vous, monsieur Alassane Kozi, vous représentez le Niger, le studio Kalangou. Quelles sont les avancées de ces négociations de la COP22 selon vous?
Merci beaucoup Mouamadou Touré Effectivement, nous avons tous suivi ensemble ces négociations de la COP 22, appelée d'ailleurs la COP de l'action après la COP de Paris. Donc, comme acquis, effectivement, cette COP 22 a eu des effets positifs. Notamment, moi, la question qui m'a particulièrement intéressé durant ces séjours, c'est notamment la question du JAR. C'est une question qui n'a pas été totalement prise en compte par l'accord de Paris, mais vu l'engagement des acteurs de la société civile, des associations féminines, cette question a réussi à s'intégrer dans le débat, a réussi à mobiliser les gens. Et je crois que dernièrement, tout récemment, il y a eu des décisions qui ont été prises à ce sujet. Notamment, il y a eu la reconduction du programme d'action de Lima sur le genre d'ici janvier 2017 au plus tard. Donc tous les États partis ont accepté qu'ils vont prendre en compte cette question pour intégrer cette dimension genre, de sorte que la femme puisse avoir sa place dans les réponses à apporter face au changement climatique. Ça, c'est un des acquis fondamentaux parce que cela n'a pas été pris en compte dans l'accord de Paris. Mais donc cette COP 22 a permis aux gens de revenir, de poser les débats et de pouvoir intégrer cette question. Et il a été décidé toujours dans ce cadre de la création de coordination nationale dans tous les pays qui va se charger des questions genre et climat. Et entre autres aussi, il a été décidé le renforcement de capacité des différentes délégations pour que ces gens puissent intégrer dans toutes leurs décisions, leur participation à ces grands forums, qu'ils puissent intégrer cette question et donner la parole à la femme et hisser la femme aussi au niveau des instances de décision. Et deuxième aspect que je voudrais également noter comme acquis, c'est que tous les pays en voie de développement, d'abord je vais dire le Fonds vert, avait noté le fait qu'il y a un fonds déjà qui est là disponible, quelque 9 milliards, mais ces fonds jusqu'à présent n'arrivent pas à être mobilisés, à être investis là où il le faut parce qu'il manque de projets concrets, de projets bancables pour pouvoir investir. Et à ce niveau, il y a eu l'acquis qu'il y a eu, c'est qu'il faut faciliter le renforcement de capacités aux pays africains. Et oui, là, oui. Le Fonds vert s'engage à hauteur de 3 millions pour participer au renforcement des capacités des pays en voie de développement pour pouvoir ficeler des projets à même d'être financés. Oui.
Par rapport à ce niveau, il y a les pays qui, le groupe Afrique qui a réagi en réponse par rapport à cette question qui est d'avoir des projets concrets pour bénéficier de ces financements. C'est que maintenant, les pays se sont engagés, ils ont même proposé des projets. Il y a des projets qui ont été financés, sauf qu'il faudrait qu'ils aient un accompagnement. Ils ont, comme Eric Ouédraogo l'a dit tout de suite, c'est que l'accès n'était pas facile et lors de cette COP 22, je crois que les discussions ont porté également sur la facilité d'accès à ces fonds et oui. Ça a été en quelque sorte un acquis. Alors, oui. Monsieur, Madame Kadiatou Ba, vous demandez la parole pour réagir par rapport à ça.
Oui, justement, pour revenir aux acquis qu'a obtenu mon pays, la Guinée, en tant que pays en voie de développement et membre du groupe Afrique et du G77, son souci était comment concrétiser ses projets d'adaptation et d'atténuation pour réduire les impacts du changement climatique dans le pays. Donc, à ce sommet international sur le climat, le pays a pu obtenir environ 1 million de dollars de la part de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal pour la réalisation de 3 projets pilotes qui sont l'aménagement des points d'eau pour les populations rurales et pour aussi la promotion de l'agriculture dite intelligente qui consiste, selon les agronomes, à faire des cultures sans pour autant détruire le sol. Il y a aussi un projet sur le reboisement des berges du fleuve Sénégal qui vont toucher non seulement les préfectures que ce fleuve traverse, mais aussi d'autres régions. C'est le cas de la préfecture de Gawal, de Pita et ainsi de suite. Alors, le deuxième acquis pour la Guinée, c'est d'obtenir aussi un financement de 3 millions pour un programme national d'adaptation qui vise à faire d'abord une étude de faisabilité des projets d'adaptation et d'atténuation avant de les réaliser. Le troisième acquis, surtout pour la Guinée aussi, c'est l'engagement de l'Union européenne à financer les 5 gigawatts d'énergie renouvelable.
5 gigawatts, donc ce qui revient à 5 000 mégawatts d'énergie. Alors, on ne pourra pas citer tous les acquis, ça c'est sûr. Nous allons donner la parole à Gildas. Concrètement,
merci,
pas sur les engagements financiers, on en a beaucoup parlé. Est-ce que
cette fois-ci,
concernant
ça
les transferts de technologie, quels sont les acquis?
Bien sûr, Mouamadou, là, je peux noter que côté République centrafricaine, il y a deux acquis qui ont été enregistrés au cours de ces pourparlers. Premièrement, l'accès au fonds vert qui devrait être simplifié, le circuit de soumission à travers des entités nationales accréditées, chapeautées par les grands bailleurs de fonds, qui était en effet critiqué
par les acteurs
bénéficiaires.
Je crois que concernant les engagements financiers, on en a déjà parlé, l'accès, la facilité, l'accès, on en a déjà parlé. Alors, oui. Nous allons donner le...
Effectivement, je vais compléter. Il y a aussi un point fort pour la République centrafricaine. Au cours de ces pourparlers, le pays a signé un accord de partenariat pour la mise en place d'un système de renforcement concernant l'agriculture. Il y a aussi la mise en place du fonds bleu qui concerne les pays du bassin du Congo, qui concerne aussi la République centrafricaine. Donc, en tout cas, c'est un acquis pour le pays.
Tout à fait. Alors, nous allons revenir sur ces initiatives comme l'agriculture dans la troisième partie de ce débat avec les initiatives, les innovations et tout. Alors, nous venons de parler des acquis lors de cette COP22, mais nous sommes tous d'accord qu'il n'y a pas que des acquis, il y a aussi des blocages, notamment concernant les engagements financiers. Alors, nous allons donner maintenant, passer la parole à Monsieur Modibo Sakho, qui est le point focal du Mali, qui va nous parler un peu des contraintes et des blocages concernant cette COP22.
En résumé, vous savez, quand on dit que Marrakech était la COP de l'action, parce qu'on avait voulu qu'à Marrakech définir toutes les lignes directrices pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Des missions avaient été assignées à l'APA et à la CEMA. Bon, ça, c'est le comité de Paris et puis la première conférence des parties de l'accord de Paris, CEMA. Donc, il devrait ici non seulement présenter les thèmes de référence qui devaient être amendés et voir si toutes les préoccupations étaient prises en compte pour continuer à travailler et mettre en œuvre. Et le comité, le SUPSA, le S-SUPSA, devrait aussi travailler sur la faisabilité de 1.5. Donc tout ce travail-là devrait être présenté, amendé, etc. à Marrakech. Parce que ceci devrait travailler sur le long terme jusqu'en 2020. Alors, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, entre toute attente, l'accord est rentré en vigueur le 4. L'ouverture, c'était le 7. Donc, ce qui fait que le travail devenait difficile parce que l'accord dit que la CEMA tient sa première conférence des parties dès que l'accord est ratifié, donc dès que les deux conditionnalités sont remplies. Et quand l'accord rentre, la CEMA tient sa première conférence, le comité de Paris, il disparaît. Or, le comité de Paris n'avait pas encore commencé, je dirais, son travail à plus forte raison le finaliser. Le comité de Paris devrait préparer même des décisions qui devraient être adoptées par la première conférence de l'accord de Paris. Alors, l'entrée en vigueur étant effective, la CEMA doit se tenir. Et nous avons dit, depuis Paris, que cet accord doit être inclusif. Donc, on doit faire participer tout le monde. Vous l'avez constaté, plus tard qu'hier seulement, il y avait 110 pays partis qui ont ratifié la convention sur 194 pays partis. Donc, en tenant la CEMA, en adoptant les décisions, ça veut dire que nous allons exclure plus de 80 pays. Donc, la discussion aussi était un peu à ce niveau. Donc, des discussions qui n'étaient pas prévues à Marrakech rentrent en jeu. D'autant, certains disent qu'il faut coûte que coûte tenir la CEMA conformément au texte. Or, nous voulons vraiment un accord inclusif. Donc, on souhaitait, par exemple, de suspendre la tenue de la CEMA afin de donner le temps aux autres pays qui n'ont pas encore ratifié l'accord d'aller à la ratification. Parce que cela faisait partie du mandat du comité de Paris qui devrait travailler, faire en sorte que tous les pays ratifient l'accord. Donc on se retrouve dans une situation où si on tient la première conférence de l'accord de Paris, ce comité de Paris doit disparaître conformément au texte. Voilà un peu de difficultés. Alors, des propositions ont été faites. On dit qu'il faut soit ouvrir la première conférence, ensuite la suspendre pendant 2 ans, donc attendre 2018 pour tenir la première conférence. Et pour eux, ça va permettre au comité de Paris de continuer son mandat jusqu'en 2018. Comme cela, en 2018, le rapport de CIPSA aussi doit apparaître pour montrer scientifiquement qu'il est possible d'aller à 1,5. Donc on suppose que d'ici là, tous les pays auront ratifié l'accord et le rapport scientifique pour les 1,5 sera disponible. Et entre-temps, vous avez vu, on a mis... L'Allemagne va s'engager à renforcer un peu les capacités des pays dans la finalisation, je dirais, de leur CDN pour traduire les CDN en programme projet. Bon, blocage, en fait, c'est des avis divergents. Nous avons voulu que le financement de l'adaptation soit égal à celui de l'atténuation, 50-50. On est à 64% pour l'atténuation en termes de financement et pour l'adaptation, on est à peu près à 16%. Les discussions sont à ce niveau. Il y a aussi au niveau du fonds d'adaptation. Dans l'accord de Paris, il est mentionné dans l'accord de Paris que le fonds d'adaptation pourrait servir le fonds climat en termes de financement pour l'adaptation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se pourrait aussi que ce fonds soit dissous et ne pas servir le fonds vert. Et c'est pourquoi nous, pays... en développement, pays vulnérables. Nous souhaitons qu'à Marrakech, qu'il y ait une décision qui dira que le fonds d'adaptation va servir le fonds climat. C'est des jeux de mots, mais nous voulons avoir des précisions, des mots concrets qui vont être consignés dans une décision adoptée à Marrakech. Donc c'est un peu ça, les discussions sont à ce niveau. Pour qu'il y ait une décision pour matérialiser tout cela, il faut que le principe soit acquis d'abord, parce que c'est les mêmes bailleurs qui se retrouvent au fonds vers le climat. Donc s'ils ne sont pas aujourd'hui disposés à mettre, moi je ne dirais même pas mettre de l'argent dans le fonds d'adaptation, parce qu'en fait le fonds d'adaptation c'est pas comme le fonds vert. Ouais, ça c'est les ressources de 2% sur la vente de carbone. Or aujourd'hui le prix du carbone a baissé, est insignifiant aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de fonds conséquents pour financer ces projets d'adaptation. Donc chaque année, ils sont obligés de faire des quêtes auprès des autres bailleurs pour mettre à disposition un peu d'argent et permettre de financer ce volet. Mais si on veut maintenant institutionnaliser ça, c'est ça un peu le hic entre nous et les pays censés mettre de l'argent dans ce fonds.
Encore, nous revenons avec nos invités. Je rappelle qu'ils sont tous journalistes qui ont suivi la COP22 pendant 15 jours ici à Marrakech. Alors donc, ils savent beaucoup, même s'ils ne sont pas des spécialistes, ils ont beaucoup suivi. Nous allons donner la parole au Burkinabé, M. Eric Ouédraogo. Alors, concernant toutes ces contraintes et ces blocages que le point focal vient de citer, Modibo Sakho, qu'est-ce que vous avez retenu, vous?
Oui, les points de blocage. L'accès au financement reste toujours un point de blocage. Parce que pour avoir accès au financement, il faut qu'il y ait les mécanismes. Et il faut que ces mécanismes permettent, en tout cas aux pays africains, voilà, d'avoir accès justement facilement à ces financements-là. Mais quand vous dites, par exemple, l'approvisionnement du fonds vert, voilà, ça, également, ça pose un problème. Les pays africains demandent que ça soit un fonds permanent. Voilà, il ne faudrait pas que ça soit sous des effets d'annonce, que chaque pays dit, voilà, je donne tel nombre de milliards. Voilà, chaque pays annonce sa contribution. Mais au finish, à l'avenir, est-ce que ce fonds reste permanent ou non? Mais c'est ça le problème. Les pays africains demandent à ce que ce montant soit permanent afin qu'ils puissent continuellement, voilà, et bénéficier de tout ce qui est mis dedans pour pouvoir, en tout cas, et l'utiliser à bon escient.
Oui. Le point focal l'a dit, ils veulent au fait 50% au niveau du fonds de l'atténuation et 50% pour l'adaptation. Et à ce jour, il y a 64% qui sont alloués à l'atténuation et 16% seulement sont pour l'adaptation. Et ça veut dire que le reste, ça va être géré par les autres choses qui vont concerner toujours les questions environnementales. Maintenant, concernant toujours ce point, le point focal l'a dit tout de suite. Vous l'avez vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas prévues lors de la COP22 qui sont venues. Par exemple, vous avez entendu avec moi qu'il y a eu la mise en œuvre de l'accord de Paris. Il y a eu cette décision, les 10 pays étaient en train de discuter. Est-ce qu'il faut tenir la première réunion de la mise en place de l'accord de Paris ou pas? Alors, qu'est-ce que concrètement, est-ce que cette discussion, qu'est-ce qu'il fallait faire selon vous?
Non, en un mot, je dirais tout simplement que la mise en œuvre, ou si vous voulez, l'entrée en vigueur de l'accord de Paris a chamboulé la rencontre de Marrakech. C'est une surprise. Personne ne s'attendait en venant à Marrakech que l'accord de Paris entre en vigueur. Et maintenant, c'est le cas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il faut continuer les négociations, il faut continuer les discussions. On ne peut pas dire, voilà, c'est une surprise. Raison pour laquelle ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent en tenant la rencontre, parce que l'accord de Paris prévoit qu'une fois que cet accord est mis en œuvre, toutes les instances devraient être mises à côté et maintenant passer à une autre étape. Alors que tout s'est déroulé ici à Marrakech. Donc il fallait trouver une formule pour simplifier un peu les choses, pour pouvoir continuer quand même les débats. Voilà. Donc on peut dire que l'accord de Paris est entré en vigueur, c'est une bonne chose, mais en même temps, ça a tout chamboulé au niveau de Marrakech.
Comme le point focal vient de le dire, il y a eu beaucoup de blocages, il est déjà cité, on ne va pas revenir sur tout cela. Est-ce que vous, M. Gildas Nabeza, qui représentez la Centrafrique, la radio Ndekeluka, est-ce que vous avez constaté d'autres points de blocage lors de ces 15 jours de négociation? Parce qu'on devait avoir les conclusions d'abord mercredi, après on les a attendues jeudi, on les a encore attendues ce vendredi et jusqu'à présent on n'a pas quelque chose, même si on attend les conclusions en fin de journée.
Effectivement, ça veut dire que l'accord de principe pose problème pour le moment.
Et quel accord?
Concernant l'accord de Paris. Donc là, toutes les parties prenantes jusqu'à présent ne sont pas tombées d'accord pour essayer de trouver une solution par rapport à la mise en route de cet accord de Paris. Et ce qui est là, ce qui pose aussi problème, c'est la mobilisation des fonds. Au lieu de 100 milliards de dollars, maintenant, on est revenu à 10 à 20 milliards. Ce qui pose un problème et ça va traîner la mise en route de l'accord de Paris. Alors, c'est ce que moi je constate.
Ok, je pense que c'est pas qu'on a quitté 100 milliards pour venir à 10 à 20 milliards, mais il se trouve que sur les 100 milliards qui étaient prévus jusqu'en 2020, on a 10% et ce qui fait 10 milliards. Maintenant, il y a le fonds d'adaptation qui est différent du fonds vert climat. Madame Kadiatou Ba, vous représentez la Guinée. Quels sont les autres points de blocage que vous avez constatés lors de ces 15 jours de négociation?
Bon, en plus de la disponibilité du fonds vert, l'accès, le point de blocage qui se situe au niveau de la disponibilité des financements, il y a aussi le problème de transfert des techniques, des technologies et des compétences. Aujourd'hui, les pays africains ont besoin de technologies pour s'adapter aux effets du changement climatique. Mais jusque-là, si nous prenons les financements, c'est comme s'il y a une répartition inégale entre les pays. Il y a de ces pays qui ont accès au fonds vert, il y a d'autres qui n'ont pas accès au fonds vert.
Alors, M. Alassane Kozi, vous représentez le Niger. Vous avez constaté d'autres points de blocage différents de ceux qui ont été cités par vos collègues?
Je pense que ce n'est pas si différent que les autres. Le point de blocage principal se trouve toujours au niveau des finances, le financement. Comment mobiliser le fonds nécessaire pour le financement de l'adaptation? Comment pérenniser ces fonds de l'adaptation? Alors, les pays en voie de développement, notamment le groupe Afrique, eux, leur souci, c'est de pouvoir mobiliser assez de fonds nécessaires pour faire face aux effets négatifs du changement climatique, parce que c'est le pays le plus qui est touché. Et les pays en voie de développement, eux, veulent arrimer. Ils veulent arrimer c'est-à-dire ils veulent mettre les deux fonds, le fonds vert climat et le fonds de l'adaptation, ce qui aura pour conséquence la disparition de ce fonds d'adaptation qui est déjà pas grand-chose. Vous l'avez dit, ça ne constitue que 16%, alors que les pays en voie de développement se battent et ils veulent arriver à même une parité entre le fonds qui doit être destiné à l'atténuation des gaz à effet de serre et les fonds nécessaires à l'adaptation. Donc le point principal de blocage, c'est surtout ce point. Et autre chose, c'est que les pays industrialisés, les pays développés, eux, ils s'engagent à financer l'adaptation, mais ils ne veulent pas donner des chiffres, ils ne veulent pas donner des objectifs chiffrés. C'est que les pays en développement, eux, contestent, parce qu'ils veulent, pour pouvoir suivre l'engagement des uns et des autres, il faut donner des objectifs précis, des objectifs chiffrés.
Alors, Monsieur Alassane, nous sommes tous d'accord que le principal point de blocage se trouve au niveau des questions financières et notamment le fonds d'adaptation. Alors, les pays industrialisés n'ont pas refusé. Il ne s'agit pas tout simplement de savoir comment est-ce qu'on va financer, parce qu'on le sait déjà, le problème se trouve à quel niveau. C'est que les pays développés ont déjà dit on va donner ces montants, mais les pays en voie de développement veulent que ce soit des décisions qui vont être insérées dans l'accord, dans un document. Alors nous allons entamer cette troisième partie de ce débat. Je vous rappelle que c'est réalisé toujours par la Fondation Hirondelle et ce sont 5 journalistes qui ont suivi toute la COP22 pendant 15 jours ici à Marrakech. Vous avez vu les informations sur notre site web hirondellecop22.org pendant 15 jours. Alors ce sont des journalistes qui sont devenus en quelque sorte des spécialistes pour vous parler de ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont constaté pendant ces 15 jours comme avancée, comme blocage et comme innovation par rapport à ces négociations. Et parlant d'innovation, nous allons donner la parole à M. Zakara qui est également un spécialiste de la société civile concernant les innovations. Il va nous parler de ce qu'il a constaté. Est-ce que les innovations qui ont été présentées ici à la COP22 répondent aux besoins de l'Afrique ?
Pour réellement lutter contre le changement climatique, il faut un transfert de compétences, un transfert aussi de technologies aussi vers les pays aussi qui sont en voie de développement. C'est un transfert de technologies qui t'aide à revenir. Par exemple, les questions de l'énergie. Lorsque on va développer certains panneaux solaires qui sont très adaptés à nos zones et puis qui sont facilement modulables, au niveau de nos pays, on peut créer des petites unités aussi pour le montage de ces modules photovoltaïques, et aussi former aussi certains de nos techniciens pour qu'ils puissent savoir comment on fait le montage. Comment assurer aussi la maintenance de toutes ces technologies. Aujourd'hui, dans nos États, nous avons une faible capacité des personnes qui ont l'accès à l'énergie. Nous pensons que c'est ce genre de technologie réellement qu'on a besoin. Il y a beaucoup d'initiatives, oui, par rapport aux panneaux solaires que nous avons pu visiter et nous pensons qu'ils sont importants. Maintenant, nous sommes à un stade juste de démonstration. Maintenant, il faut plus peut-être les diffuser aussi vers les zones qui ont réellement besoin de ces technologies. Nous avons vu aussi cette expérience des voitures électriques. Je pense que c'est important pour certains pays qui sont développés, qui sont industrialisés. Pour nous, nous ne sommes pas à l'ordre du jour de ces voitures électriques, mais c'est important aussi que chez nous aussi, ceux qui sont plus aisés peuvent aussi faire recours à ces voitures électriques. Puis nous avons un peu visité aussi les différents stands de ce qu'on appelle la zone verte et nous avons vu un certain nombre d'initiatives aussi qui permettent aussi un échange d'expérience avec d'autres communautés qui viennent de différentes localités. Une initiative qui vient du Burkina où le monsieur qui permet d'organiser les éleveurs autour d'une petite unité de production de lait et il essaie de faire la collecte et puis envoyer ça au niveau d'une unité centrale qui se trouve aussi dans le centre urbain. Donc je pense que c'est une petite initiative qui, si on part en profondeur, elle est très importante parce que dans nos pays, la plupart de nos populations sont soit agriculteurs ou bien éleveurs et nous avons besoin beaucoup de ça, des initiatives, comment essayer de faire la conservation de certaines productions, comment aussi assurer aussi une chaîne de valeur de toutes ces productions que nos communautés aussi font parce que tout ce qu'on produit au niveau local, c'est des produits qui sont bio, comme on dit, qui ne sont pas toxiques, qui contribuent aussi à accroître la résilience de ces communautés et aussi à booster une certaine économie aussi locale. Nous avons aussi vu une initiative aussi par rapport au Kenya, qui est aussi importante, où on forme des champs sur la production des plants, comment faire une pépinière. Ici, on a vu beaucoup des innovations qui sont très importantes, comme l'initiative sur les énergies renouvelables, l'initiative sur l'adaptation et une initiative purement marocaine, AAA. Et l'ensemble des initiatives, nous pensons qu'elles sont très importantes pour l'Afrique, d'abord qui est un continent très vulnérable par rapport aux effets de ces changements climatique, surtout notre zone aussi au Sahel.
Les innovations technologiques pourraient répondre aux besoins des populations. Toutefois, nous nous regardons sur les sources d'énergie qui pourraient alimenter ces innovations technologiques-là, car il ne faudrait pas que le déploiement de ces innovations technologiques la nuisent au climat. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont été annoncées au cours de cette COP, notamment l'initiative africaine sur les énergies renouvelables, qui pourrait répondre aux besoins des communautés africaines en favorisant l'accès aux sources d'énergie propres, qui sont importants vu l'impact négatif que l'utilisation classique de l'énergie, des sources d'énergie classiques, notamment le fossile ou la biomasse, a sur la santé des communautés. Un point essentiel sur les innovations technologiques, il faut que ces innovations répondent aux besoins spécifiques des communautés pour lesquelles ils sont réalisés. Pour l'Afrique, nous pensons que ces innovations devraient permettre d'aider à satisfaire les besoins énergétiques des communautés africaines qui, pour la plus grande majorité, n'ont pas accès aux sources d'énergie primaires. Une initiative a été annoncée ici à la COP22, qui est l'initiative TRIP-A. Alors nous, en tant que société civile, nous émettons quelques réserves concernant cette initiative, car beaucoup de choses restent encore à être éclaircies, notamment sur les technologies que cette initiative pourrait déployer. Et nous craignons que cette initiative-là ne vienne exacerber des problèmes déjà liés à l'agriculture.
Eric Ouédraogo, voici M. Zakara a parlé de plusieurs innovations. Il a parlé des voitures électriques, il a parlé de l'initiative AAA, qui est considérée pour certains comme une bonne initiative, mais certains ont émis des réserves comme le réseau climat. Alors vous, par rapport à ces innovations, après 15 jours, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à tout cela?
Il faut dire que au niveau de la COP22 à Marrakech, il y a vraiment des innovations. Nous avons parcouru le stand des innovations. On a vu qu'à partir même du plastique, certains arrivent à produire des hydrocarbures. Et ça, c'est très bien parce que ça permet de valoriser justement ces plastiques-là. Rien n'est jeté au hasard. Tout est récupéré et transformé en hydrocarbures. Mais vous savez que les hydrocarbures, ce n'est pas ça vraiment l'idéal. Vous avez parlé tout à l'heure de voitures électriques. Tout le monde, je peux dire que ça pourrait être peut-être l'une des principales solutions à la pollution. Si tout le monde pouvait avoir un engin électrique, c'est la solution. Surtout en Afrique où on a vraiment le soleil. C'est vraiment...
Mais est-ce que tout le monde aura les moyens d'acheter une voiture?
Justement, le problème c'est ça. On nous fait des innovations, mais qui ne sont pas accessibles aux populations. Il faudrait que les pays développés qui ont l'expertise nécessaire, qui arrivent à mettre en place toutes ces innovations-là, qu'en le mettant en place également, qu'on pense au coût. Et ce coût-là, c'est surtout pour nous, Africains. Nous n'avons pas les moyens pour acquérir toutes ces innovations. Donc, il ne suffit pas d'innover et maintenant, l'innovation, personne ne peut se l'acheter. Ça pose un problème. Donc, c'est bien d'innover, mais en innovant, il faut penser également au coût pour permettre à tout le monde de l'acquérir. Et comme ça, ça pourrait vraiment continuer à lutter contre les effets des changements climatiques. Sinon, toute innovation est la bienvenue. Le problème, à mon niveau, c'est le coût.
Pour appuyer ce que vous venez de dire tout de suite, M. Ouédraogo, c'est que ceux qui arrivent à transformer les plastiques en hydrocarbures ont même déjà eu un prix. Mais ce que j'ai à dire par rapport à tout cela, c'est que ce sont des démonstrations qui sont montrées ici à la COP22 à Marrakech. Est-ce que les fonds ont été obtenus? Est-ce que ces démonstrations peuvent vraiment se réaliser concrètement dans nos différents pays? La question est adressée à vous, M. Gildas Nabeza de la Centrafrique.
Oui, merci beaucoup, Mamadou Touré. Tout à fait, il y a eu des innovations qui peuvent contribuer au développement de la République centrafricaine. Je prends l'initiative des chefs d'État qui se sont regroupés lors de leur sommet et qui ont mis en place quelques commissions qui concernent les pays du Sahel, concernant le lac Tchad, des commissions concernant le bassin du Congo, des commissions concernant des pays insulaires. Je prends l'exemple du bassin du Congo qui concerne la République centrafricaine, des fonds qui seront alloués à l'amélioration de ce bassin va permettre à la République centrafricaine de créer des activités qui vont freiner...
Oui, par rapport aux innovations technologiques.
Aux innovations technologiques, moi je vois que la COP22, qui devait être une COP de l'action, moi je la trouve...
Qui devait, elle ne l'est pas?
Non, moi je la trouve une COP d'innovation parce que j'ai vu beaucoup d'innovations.
Ça revient à dire que c'est une COP de l'action alors?
Oui.
Merci.
S'il te plaît, il y a aussi ces histoires transformation des déchets en lubrifiant. Moi, je trouve que c'est une initiative, mais ça ne contribue pas à la lutte contre le changement climatique.
Ok. Alors, la même question sera adressée à Kadja Touba de Studio Hirondelle Guinée.
Merci de me passer la parole une nouvelle fois. Bon, nous avons vu que la COP22 a été un centre d'innovation et d'invention. Nous avons vu des voitures électriques, nous avons vu des voitures solaires et même du biomasse fait à partir des tubercules comme le manioc qu'on appelle biogel au Togo. Mais ce qui m'a beaucoup plus impressionné ici, c'est de voir un produit fabriqué par une entreprise française qu'on appelle Gelo. C'est un produit bio
qu'on appelle
Gelo. Le produit est appelé Gelo. C'est un produit bio-organique qui permet de donner au désert, qui permet de verdoyer les déserts. Selon les fabricants de ce produit, si tu creuses un trou au désert, tu mets ce produit au sol et puis tu plantes un arbre, c'est très facile que l'arbre pousse et que ça donne au désert son état verdoyant.
Donc Gelo est ton type d'engrais alors ?
Non, c'est pas un engrais en quelque sorte, mais c'est un produit organique conçu spécialement pour donner au désert l'état verdoyant qu'il avait auparavant. Ils ont même expérimenté ça dans le désert de l'Algérie. Et j'ai vu les images, vraiment c'est encourageant. Je pense que ça c'est des initiatives que les pays africains doivent expérimenter pour rendre vraiment les déserts du Sahara, par exemple, un endroit où il fera bon vivre.
Alors, M. Alassane Kozi, vous êtes de Studio Kalangou du Niger. Vous aussi, vous avez constaté toutes ces innovations. Alors, après votre constat, pensez-vous que ces innovations sont réalisables au niveau de l'Afrique ?
Merci beaucoup, Touré. Je pense effectivement que toutes ces innovations sont réalisables. Il suffit tout simplement que nous ayons, que tout le monde ait vraiment la volonté de réaliser toutes ces innovations, notamment en mettant la main dans la poche, comme on l'a dit, le financement, la mise à l'échelle. Nous avons vu plein d'innovations, comme mes confrères viennent de le rappeler, des innovations allant à la transformation de déchets, des innovations dans le domaine de l'agriculture, des innovations dans le domaine du transport. Nous avons vu tellement, pas mal d'innovations. Mais tous ces gens-là, quand vous discutez avec eux, tantôt c'est le problème de fond. Pour pouvoir multiplier toutes ces innovations, pour pouvoir les mettre à la disposition de tout le monde. Et c'est aussi des problèmes d'accessibilité. Vous l'avez souligné tout à l'heure avec notre collègue Aimé Ouedraogo, qu'effectivement, souvent il y a des innovations, mais les gens, les uns et les autres, n'ont pas la latitude de pouvoir accéder à ça. Moi, ce que je voudrais soulever comme innovation, parlant de mon pays, du Niger, j'ai assisté à leur événement parallèle qu'ils appellent. Et là, c'est un pays qui a connu pas mal de sécheresses et qui, au fil, avant même que les concepts de changement climatique arrivent à être mis sur le tapis, a connu plusieurs sécheresses et s'est, au fil du temps, habitué à donner des réponses. Et sur le long terme, nous avons vu qu'il y a une nouvelle technique qui est en train d'être adoptée par le pays. C'est quoi ? C'est cette technique qui consiste, qu'on appelle la gestion durable des terres. Cette gestion durable des terres, en quoi elle consiste ? Elle consiste en fait à faire revivre la terre, à donner un aspect vivant à la terre. Des endroits, par exemple, qu'on croit perdus,
Il suffit de faire les
récupérations.
Alors,
de terre.
Merci.
Je voulais juste finir en donnant un exemple concret. La récupération de terre qui consiste par exemple à creuser des trous un peu sur un champ désert, pour permettre à ce que l'eau puisse stagner, pour que la verdure puisse pousser.
Kadja Touba en a déjà parlé. Voilà. Eric, vous voulez juste en 30 secondes.
Oui, je réagis par rapport aux innovations. Les innovations, ce n'est pas que de l'Occident. En Afrique, on a des chercheurs qui arrivent à mettre en place également des produits innovants. Je prends par exemple au Burkina, on a un étudiant qui n'a même pas encore fini ses études, qui a mis en place un véhicule électrique. Voilà. Mais il faut, comme je le dis, avoir toujours les moyens dans le domaine. Donc, que les pays développés puissent toujours continuer à nous appuyer aussi bien avec nos, sur nos, que nos chercheurs sur place puissent progresser, même au niveau de l'Europe, les produits qui sont mis en place, qu'on puisse aussi accéder facilement à ces
Zakara
produits.
Également en a parlé, il y a eu des innovations également en Afrique et vous l'avez entendu tout de suite. Alors, c'était le débat qui vous a été présenté en direct de la COP22 et donc nous avons essayé de faire le point après 15 jours, 5 journalistes ici présents. Il s'agissait de Aimé Eric Ouédraogo qui est, représente la RTB ici à la COP22. Monsieur Gildas Nabeza, journaliste de Radio Ndeke Luka de la République Centrafricaine, Kadja Touba qui est journaliste au studio Hirondelle Guinée, Alassane Kozi qui est journaliste de studio Kalangou au Niger. Et le débat vous a été présenté par Mouhamadou Touré, journaliste de Studio Tamani au Mali. Et je rappelle que le débat a été réalisé par la Fondation Hirondelle avec Samuel Turpin et Tristan Mikel.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halo Dumonde.
Chienne Berry.